Moi, je crois que la question de l'Irak s'inscrit dans le fameux projet dit du Grand Moyen-Orient pour les États-Unis et qui vise à atteindre deux objectifs pour la politique étrangère américaine. Ces deux objectifs sont d'une part faire en sorte que l'ensemble des forces qui s'opposent depuis longtemps au développement et à l'extension de l'État d'Israël, que ces forces soient contenues, voire anéanties. Et deuxième objectif pour les États-Unis, qui est un objectif de contrôle jusqu'à épuisement des ressources, de l'essentiel des ressources énergétiques. Donc ces deux objectifs passent par un chemin qui est celui de la refonte du Moyen-Orient, avec des régimes qui seraient des régimes, disons, à façade démocratique, l'idée étant pour les Américains de mettre en avant les différences ethniques, communautaires à l'intérieur des États-nations hein, du Moyen-Orient et de se poser en arbitre de ces rivalités intestines à l'intérieur des États.
En cela, donc, on pourrait dire que les objectifs ont été atteints ou sont en train d'être atteints par les Américains.
Oui, je suis moins dur sur ce plan que beaucoup d'observateurs qui ont dit qu'effectivement les États-Unis ne rencontrent que des difficultés. Ils ont des difficultés, on peut dire que la question irakienne est difficile, mais au fond le temps d'une certaine manière joue pour eux et leur radicalisme islamique joue pour eux. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il est avec eux, mais il joue pour eux parce que au fond l'islamisme transnational est un facteur de convergence des politiques étrangères occidentales et qu'il y a une certaine unité des pays occidentaux, européens et américains, face à ce problème. Autant la France se différencie des États-Unis sur une question de souveraineté nationale, sur la volonté d'un État palestinien, sur la volonté d'un retour à une souveraineté réelle, effective en Irak, autant la France fera bloc avec les États-Unis s'il apparaît que les facteurs les plus déstabilisants ne sont que des facteurs de terrorisme islamiste. Et cela consolidera au contraire les régimes proches des États-Unis ou installés par eux.
Finalement, un nouveau type de colonialisme.
On peut effectivement faire le parallèle. Les modes de projection de la puissance sont différents. La colonisation n'est pas explicite, elle n'est pas affirmée explicitement et fondée en quelque sorte sur une supériorité civilisationnelle affirmée, ce qui était le cas au XIXe siècle. Mais on retrouve un certain nombre de mécanismes, notamment l'arbitrage du colonial, entre guillemets, par rapport aux chefs de tribu. On retrouve le principe de la nouvelle idéologie phare, des nouvelles lumières, donc le droit de l'hommisme, l'importation de la démocratie, etc. Donc on peut établir ce parallèle, mais avec des modes de fonctionnement qui sont différents. Et puis on retrouve évidemment la logique aussi économique, puisque reconquérir ou apporter, entre guillemets, la démocratie à un pays, c'est aussi se positionner pour la reconstruction donc économique de l'ensemble de la région.
On a l'impression que face à cette force finalement américaine, notamment économique, l'Europe, l'Union européenne ne fait plus le poids.
Oui, je pense que vous avez raison. Ceux qui pensent le monde, qui projettent leur puissance, continuent à avoir l'avantage sur ceux qui sont en aval. Les Américains font l'histoire davantage que l'Union européenne parce que, un peu de manière hollywoodienne, ils pensent les méchants, ils les désignent et ils en tirent les conséquences.
Nous n'avons peut-être pas le même pouvoir de prédation non plus.
Alors il n'y a plus la même philosophie, on revient à la fameuse thèse, vous savez, de le livre de Kagan qui dit qu'au fond, l'Amérique, philosophiquement, elle est en ce moment du côté de Machiavel, donc c'est la réelle politique, elle pense l'intérêt et elle est capable de manière cynique de poursuivre ses buts. Kagan dit que l'Europe serait devenue réellement kantienne, donc la volonté de puissance aurait disparu.